OK, donc ce soir, on passe sur le deuxième point du calvinisme, ce qui est l'élection inconditionnelle, et selon la tradition, c'est du moins du côté anglophone, c'est le U, le unconditional election, le U du tulipe, là. La unconditional election qui veut dire l'élection inconditionnelle. Le mot inconditionnel, on sait ce que ça veut dire, c'est sans condition. OK, qu'est-ce que ça enseigne? On va amener une série de points que cette doctrine-là enseigne. J'en ai huit. Alors, qu'est-ce que ça enseigne? Ça enseigne, premièrement, que Dieu le Père, avant la fondation du monde. Alors, ça, c'est le premier fait à retenir, c'est que cette décision-là a été prise par Dieu le Père, donc la première personne de la Trinité, ça s'est fait avant la fondation du monde. Le deuxième point, c'est qu'il a choisi un nombre précis et défini d'hommes et de femmes à travers les temps qui étaient pour être l'objet de sa grâce de recevoir le salut en Jésus-Christ. Alors, le nombre précis et défini, on ne peut pas dire un nombre, on ne peut pas le nommer parce que c'est pas dit dans les Écritures combien. Quoiqu'on peut avoir certains indices par l'Apocalypse où on nous parle de milliers de myriades, donc on parle de millions de personnes. Alors ça va se chiffrer en termes de millions. Maintenant, le nombre précis et défini est immuable. Quand Dieu les a décidés, vu que Dieu est un Dieu immuable, on a vu que c'était une de ses attributs, l'immuabilité, c'est que quand il conçoit quelque chose, c'est conçu à la perfection, il ne revient pas sur ses idées. Alors, un homme précis est défini d'individu parmi les races, les membres de la descendance de la race des choux d'Adam. Maintenant, le troisième point, c'est que ces personnes-là vont être l'objet de recevoir éventuellement sa grâce dans le courant de leur vie. Il y en a qui vont la recevoir jeune, 5 ans, 6 ans. Les circonstances même du salut pour chaque personne que Dieu a mis en Jésus-Christ ont été précisées et les moyens qui étaient pour nous atteindre, pour le salut, ont été précisés par le Seigneur. Alors, il y en a, c'est 20 ans, il y en a, c'est 30 ans, dans mon cas, ça a été 33 ans, il y en a, ça peut être 50 ans, il y en a, ça peut être 60 ans, il y en a, ça peut être juste avant de mourir, la valeur sur la croix, c'était juste avant de crever. Alors, on voit que le Seigneur utilise différents moyens, mais l'élection, ça veut dire qu'éventuellement, dans le cours de ta vie, tu vas traverser une période où tu vas être perdu comme tout le monde, et à un certain moment précis de ta vie, le Seigneur a choisi la personne, ou le moyen, les Écritures, ou ça peut être par un tape, ça peut être cheap. Il peut y avoir une multitude de moyens que le Seigneur peut utiliser. Mais il va t'emmener éventuellement, il va t'ouvrir les oreilles, ça va être l'œuvre du Saint-Esprit, il va faire son travail, et tu vas comprendre les choses de la vie éternelle. Donc, l'objet de la grâce, ça c'est bien important, c'est une notion aujourd'hui qui est très, très mal comprise, la grâce, parce que vous allez dans toutes sortes de milieux, on va parler de la grâce, puis il n'y a pas grand monde, ça veut dire la même chose. La grâce, la vraie notion de la grâce, c'est alors on dit souvent, c'est une faveur imméritée. C'est vrai, mais c'est juste une partie de la vérité. Parce que quand on dit une faveur imméritée, c'est une faveur non méritée. Mais quand on est un ennemi de quelqu'un, puis que la personne nous fait une faveur, c'est plus que immérité. C'est démérité. Une faveur déméritée, c'est que c'est... Je méritais exactement le contraire et la personne est tellement bonne qu'elle me fait une faveur, elle me fait une grâce quand même. Alors la grâce, et là, il faudrait aussi aller un petit peu plus en profondeur pour définir le mot grâce comme tel, parce que le mot grâce, c'est un mot aujourd'hui qui est, on pourrait dire, charrié, énormément charrié. Des fois, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison sur l'aspect qu'ils vont nous présenter, mais le problème, c'est qu'ils ne la présentent pas dans sa globalité. Alors, quand tu définis quelque chose, puis tu as un morceau de tarte, tu en as eu trois morceaux, si tu n'as pas tout l'ensemble, c'est plus la définition complète. OK. Et le quatrième point, c'est qu'il a décidé que ce serait seulement ceux-là qui a placé en Jésus-Christ, ceux qui a choisi, qui recevraient, qui serait sauvé de la perdition éternelle. Donc, on peut mentionner qu'il aurait pu décider de sauver tout le monde. Il avait à la fois l'autorité et le pouvoir et la capacité à le faire. Et il aurait pu décider de sauver personne. Parce qu'il il n'y avait pas aucune obligation à manifester envers qui que ce soit dans l'humanité. Alors, il y avait les deux extrémités qui étaient possibles. Sauver tout le monde, en Jésus-Christ, puis décider de le faire. Ou sauver personne. Puis, il n'y aurait pas eu aucun de ces attributs qui aurait été dérangé. Le Seigneur étant parfait. Alors, ce qu'il a choisi de faire, c'est d'en sauver une partie. Alors, il a décidé de faire ni l'un ni l'autre, c'est ça, il a décidé d'en choisir un certain nombre précis, puis d'exclure les autres. Le cinquième point. Le choix de pécheurs particuliers. Le Seigneur, il n'a pas décidé de nous sauver parce que, je regarde à l'horizon, il y a une job à Madagascar. Lui, là, quand on va lui présenter l'Évangile, il va dire oui. Ah, lui, je le mets en Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est pas basé sur aucune prévision d'avance de ce que tu étais pour faire. Et quand tu vas aller parler de la doctrine de la grâce dans les milieux néo-évangéliques, protestants en général, on va dire, justement, pour justifier que tout homme peut venir au Seigneur, c'est que le Seigneur, ils vont dire, oui, on croit à l'élection, mais en autant que c'est une élection que le Seigneur regarde de loin, puis il dit, oh, lui, le Nouveau-Brunswick, là, c'est un bon petit gars, il va dire, oui, quand on va y parler de Jésus-Christ. Alors, c'est pas ça du tout. Alors, c'est bien important d'apprendre ça, et il n'a pas vu ça aussi parce qu'il a vu qu'il avait mené une bonne vie. Parce que, ça ne tiendrait pas de bout, parce que moi, s'il y a un gars qui a fait une mauvaise vie, elle est sauvée, je le reconnais humblement que c'était mon cas. Alors, je veux dire, pourquoi tu m'as choisi moi? Et moi, je considère que chez nous, on était 4 enfants. Puis dans les 4 enfants, ma sœur a mené une meilleure vie que moi. Mes deux autres frères ont mené des meilleures vies que moi. Ils ne sont pas sauvés. Puis il a sauvé le mouton noir de la famille, comme on l'appelait. Pourquoi il m'a sauvé moi? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux te dire une chose. Quand tu commences à comprendre ce que c'est la doctrine de la grâce, ce que c'est l'Évangile, où ça va t'empêcher d'aller, puis qu'est-ce que ça va te donner comme privilège pour vivre au ciel, tu apprécies grandement que ce ne soit pas basé sur le fait que dans la famille, il y en avait un. S'il y aurait choisi le meilleur, je serais pourri. Je serais encore dans le monde, je serais peut-être bien mort. Parce que de la manière dont tu es parti, je cherche ce qui m'aurait arrivé. Alors, ni sur le mérite, aucune forme de mérite quelconque, ou aucune forme de foi prévue d'avant. Sixième point. Son choix était basé uniquement sur le bon plaisir et sa volonté souveraine. Alors, il y a des versets. Pour cela, je vous donne juste les points pour présenter l'ensemble de la doctrine. Après ça, on va prendre point par point. On va voir que les Écritures ont des versets pour ces choses-là. C'est pas quelque chose que j'invente. Alors, son choix était basé uniquement sur son bon plaisir et sur sa volonté souveraine. Souveraine, on l'a dit, c'est le souverain, c'est le grand patron. Dans le temps même, on va prendre les rois de France, les rois d'Angleterre, quand ils prenaient une décision, c'était exécutif, c'est Dieu pareil, mais dans les sphères énormément plus hautes, puis sans, parce que les rois humains peuvent faire des décisions qui peuvent être des décisions fausses, des décisions mauvaises, mais l'Éternel ne prend jamais de fausses décisions, il ne prend jamais de décisions mauvaises, toutes ces décisions sont empreintes de toutes ses qualités inhérentes, ses attributs. Tous ces attributs sont reflétés dans chacune de ses actions. Alors, il n'y a rien d'imparfait dans quelque décision que ce soit que l'Éternel prend. OK, conséquemment, septième point, l'élection est inconditionnelle. Ça veut dire que c'est aucunement conditionné ou déterminé par quoi que ce soit de la part de l'homme. C'est pas par quelque chose qu'on a fait ou que le Seigneur prévoyait. Alors, ça ne vient pas de l'homme, c'est vraiment, faut tu vois, l'initiative divine dans ça, comme premier point. Si tu ne le vois pas, là, on manque de bateau. Et c'est là que je fais la différence entre l'arminianisme et le calvinisme. Le calvinisme rend la gloire à Dieu en disant que c'est Dieu qui a fait la job. Non seulement il a fait la job, mais il a fait les choix. Et c'est vraiment la source du salut est en lui et de par lui. OK. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on parle de son conseil, le conseil secret de Dieu, l'alliance éternelle dans le conseil de Dieu. C'est quelque chose qui a plusieurs qualificatifs, libre, éternel et immuable. Libre, ça veut dire que l'Éternel n'était pas obligé de tenir compte de quelques contraintes que ce soit qui viennent de l'extérieur pour prendre ses décisions. Donc il était libre, c'était pas parce que quelqu'un lui faisait quelques contraintes que ce soit à Dieu, il est parfaitement libre. Éternel, ça veut dire que ça s'est pris dans l'éternité. Immuable, ça veut dire qu'après que la décision est prise, il change en réalité. Ça a quelque chose à la fois rassurant, ça a quelque chose à la fois terrorisant. Parce que rassurant pour ceux qui sont sauvés, et terrorisant pour ceux qui ne sont pas, parce que Dieu ne changera pas d'idée. Alors, j'ai sorti le petit livre ici de la Confession de foi 1689, Confession de foi réformée baptiste de 1689. Les confessions de foi, on pourrait sortir une formule pour dire un peu c'est quoi. Confession de foi, moi je dirais c'est comme un flash. Tu sais, les Polaroids, là. C'est comme un Polaroid pris sur ce que croyait un ensemble de croyants à une époque précise. Si tu prendrais l'ensemble des confessions de foi, il y a une multitude de toutes sortes de dénominations. Alors ça, c'est la confession de foi que les baptistes calvinistes de cette époque-là se sont assis, une bande de théologiens ensemble, et se sont mis à dire de façon systématique ce qu'ils croient sur les différentes doctrines. Alors c'est ça une confession de foi, c'est un ensemble de théologiens qui, à une époque précise, détermine ce qu'ils croient que la Bible dit sur une foule de sujets, dont le salut, dont d'autres choses, la nature de Dieu, l'enfer, toutes sortes de sujets. Alors c'est ça une confession de foi. Et la confession de foi de 1689, à la page 17 à 20, donne de façon très bien structurée, là, parce que là, les théologiens se sont assis, ont pesé des mots, et à chaque fois qu'ils donnent, disons, une phrase, ils mettent un petit chiffre à côté ici, et en bas, le petit chiffre représente un verset. Alors, autrement dit, c'est que la phrase a été pesée en fonction du verset, et que tout là-dedans est mûrement réfléchi, et c'est la position que les baptistes avaient, les baptistes calvinistes, au 17e siècle. Mais il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là. Si on avait pris ce que les gens croyaient sur le salut avant, on voit que c'est quelque chose qui est constant au cours de l'histoire. Alors on va regarder ça rapidement, on va le lire, on va voir que ça revient à peu près à ça, mais ça va être dit dans des mots très, très choisis, très précis. De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, toute chose qui arrive. Bon, après ça, je vous donnerai les séries des versets. Comme là, il arrête, il dit numéro 1, Ésaïe 46, 10. Alors, pour chaque numéro, c'est une série de versets que tu peux aller voir pour vérifier si ce qu'il dit là, c'est vrai. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché et qu'il n'a pas de communion avec quiconque dans ce domaine. Il ne fait pas violence à la volonté de la créature, mais la liberté ou la contingence de causes secondes sont bien plutôt établies qu'expliquées. Ça, le problème de la contingence des causes secondes, ça veut simplement dire, si Dieu a déterminé d'avance tout ce qu'on fait, alors nous, on pourrait se dire, comment puis-je être responsable de tous les actes que Dieu a décidé d'avance que moi, qui m'arriverait à moi, l'on sera porté à exclure notre responsabilité. Ce qui veut dire par la liberté ou la contingence des causes secondes, ça veut dire que si moi, à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas quelque chose pour aller chercher mon pain, je ne fais pas quelque chose que je suis malade pour aller me faire soigner, ça veut dire que je suis responsable de choses et de qui vont m'arriver dans ma vie à cause que c'est moi qui fais les choix. Là. Je ne peux pas dire, ah, Dieu a décidé que les choses qui m'arriveraient, puis moi je ne bouge pas, j'attends qu'il me... Alors c'est ça qu'il veut dire. Là. Parce qu'il y en a qui ont très vu le problème, qui ont vu, qui ont dit, ah, mais si le Seigneur a tout déterminé d'avance ce qui devait arriver, il y en a qui se sont comme retirés, ils disent, ben, pas responsable, non seulement de mes péchés, mais... C'est comme s'il s'exclut toute forme de responsabilité. Alors, c'est justement pour expliquer un petit peu ce bout-là, parce que c'est un peu intellectuel, pour saisir un peu ce qu'il veut dire. La liberté ou la contingence des causes secondes sont plutôt établies qu'exclues. Tu sais, faut se réfléchir sur un peu ce qu'il veut dire. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu à disposer de toutes choses, et sa puissance et sa fidélité à l'accomplir. Et là, il y a toute une série de versets, je ne sais pas si je devrais les nommer pour le... bien fait, ceux qui voudraient lire ça éventuellement. Ésaïe 46, 10, Éphésiens 1, 11, Hébreux 6, 17, Romains 9, 15 et 18, Jacques 1, 13, 1 Jean 1, 5, Actes 4, 27 et 28, Jean 19, 11, Nombre 23, 19, Éphésiens 1, 3, 5. Alors, là, je ne le ferai pas pour chacune des phrases, mais c'est pour dire que dans chacune des phrases qu'on va lire, on va retrouver toute une série de versets qui viennent supporter l'idée qui vient d'avancer. Alors, ceux qui veulent se procurer ça à la librairie, ici, je pense qu'il y en a une librairie. Moi, j'ai acheté dans une librairie chrétienne, mais tout dans le temps, j'ai acheté il y a 5-6 ans. Ça coûtait 8,99. Je ne sais pas parce que je veux le vendre, j'en vends pas. Au cas des fois qu'il y en a qui veulent acheter, j'ai pas de librairie. OK. Par la deuxième point, la deuxième phrase qui dit, bien qu'il sache tout ce qui peut ou doit arriver, Dieu cependant n'a pas décrété telle chose parce qu'il la prévoyait comme future ou parce qu'elle devait arriver étant donné les conditions préalables. Troisième point, par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges, on est porté des fois de l'oublier, certains hommes et certains anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce, les autres étant laissés agir selon leur péché en vue de leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Autrement dit, on voit dans l'élection qu'il n'y a pas eu l'élection seulement des hommes, il y a eu l'élection des anges. Parce qu'il y a eu une certaine partie des anges qui n'ont pas chuté, et il y a une partie des anges qui ont chuté. Donc l'élection, ça comprend à la fois celle des anges et celle des hommes, et autant le nombre est défini dans une catégorie définie également dans l'autre. Alors ça, c'est une chose qu'on a souvent oublié. L'élection, on oublie l'élection des anges. Quatrième point, ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés et préordonnés, sont précisément et immuablement désignés. Alors le nom, parce que les anges ont toujours existé, mais pas toujours existé, c'est des créatures, mais les hommes ont existé à différents siècles, alors le immuablement désignés, et leur nombre est si certain et fixé qu'il ne peut être ni augmenté, ni diminué. Et là encore, là, il y a des versets pour tout ça. Cinquième point, avant que ne soit posé le fondement du monde, Dieu a choisi en Christ, pour la gloire éternelle, selon son dessein éternel et immuable, et selon le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, les êtres humains prédestinés à la vie. Là, on sous-entend la vie spirituelle. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour, sans qu'aucune condition ou cause en la créature ne l'y pousse. Et encore là, il y a cet verset. Comme Dieu a désigné les élus pour la gloire, sixième point, il en a aussi, selon le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens nécessaires. Je disais tout à l'heure, non seulement il sauve les personnes, mais il va permettre que les moyens par lesquels tu viennes au salut, ça aussi, il les a préordonnés. Ça veut dire que si tu es venu au monde, toi, en lisant le Nouveau Testament, suis-moi, va, en lisant le Nouveau Testament, bien, c'était le moyen que le Seigneur a choisi pour m'amener à lui. Mais un autre, ça peut être pour une prédication, un autre, ça peut être pour une lecture d'un livre, un autre, ça peut être pour un témoignage, toutes sortes de moyens. Alors, il a déterminé aussi les moyens nécessaires. C'est ainsi que les élus déchus en Adam sont rachetés par le Christ et appelés efficacement à la foi en Jésus-Christ par son Esprit qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés par son pouvoir au moyen de la foi en vue du salut. C'est-à-dire qu'il y a une période dans notre vie où le Seigneur prend quand même soin de nous, sachant qu'on est les élus en vue du salut. On n'a pas le salut encore. Allez, jusqu'à 33 ans, le Seigneur veillait sur moi, sachant que j'étais un élu, et sachant qu'à 33 ans, il me régénérait. Mais durant la période avant, Dieu permettait qu'on soit protégé. Il n'est d'autres rachetés par Christ ou efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés que les élus. Alors ça, c'est bien important aussi à réaliser. Septième point, la doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être maniée avec une sagesse et une précaution particulière, afin que ceux qui prêtent attention et obéissent à la volonté de Dieu révélée dans sa parole puissent, dans la certitude de leur vocation efficace, être assurés de leur élection éternelle Ainsi, à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile, cette doctrine donnera matière à louange, respect et admiration, ainsi qu'humilité, zèle et solide assurance. Alors, ça termine, ça c'est la petite section du livre qui parle du décret éternel de Dieu et qui nous donne les positions bibliques avec un ensemble de versets très détaillés de toutes ces choses-là qu'on va regarder à soir. OK. Maintenant, est-ce que l'homme est autorisé à questionner le choix que Dieu a fait? Dire, ah ouais, c'est le même, Dieu a choisi des hommes. Mais pourquoi il n'a pas choisi moi? À ce moment-là, c'est d'arriver et de faire défendre Dieu à la barre, puis c'est Dieu qui est son juge. C'est l'homme qui est le juge de Dieu. Tu comprends-tu? Alors, c'est arrivé quand tu lis Romains 9, Paul, il parle de ça, et là, il voit très bien que les gens auraient pu dire, ben oui, mais si Dieu décide de choisir tout le monde d'avance, qui je suis, moi, pour me proposer à sa volonté? Alors, Paul leur dit, ô homme, qui es-tu? Sans vouloir dire, toi, misérable pécheur, tu viens essayer de questionner les choix de Dieu. Tu es un pécheur pourri jusqu'à l'os, puis tu viens essayer de remettre en question les décisions du sage, saint et tous les autres attributs de Dieu. Parce que l'homme, il ne se voit pas tel qu'il est quand il arrive, quand il a cette prétention-là, cette arrogance-là, de faire descendre Dieu à la barre pour lui rendre des comptes. C'est comme foyer. Alors, quand on lit Romains 9, Paul, il ne se gêne pas pour leur dire qui es-tu, misérable pécheur, pour venir questionner les choix de Dieu. T'sais? Parce que, moi, je me souviens d'avoir déjà parlé de ça avec quelqu'un, puis il me dit, « Ah oui, mais c'est injuste. Qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu dis ça? T'as rendu compte ce que tu dis? Tu dis que Dieu est injuste. Parce qu'il n'a pas choisi tout le monde. C'est toi qui fais le juge des décisions de Dieu. Hey, si la personne s'entendrait, puis elle verrait Dieu d'un coup sec après avoir fait une affaire de même, je suis sûr qu'elle fondrait comme du gars d'envoi. Parce que d'après, ah oui, ça verrait Dieu, là, au moment qu'elle dit une folerie de même, là. Hey, t'es injuste, tu peux décider de me sauver tout le monde. T'sais? Mais c'est ça qui est la principale difficulté avec les doctrines de la grâce. C'est que ça prend vraiment la grâce de Dieu pour l'accepter. Parce que l'être humain, dans sa folie, va venir questionner Dieu, il va dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Il ne peut pas avoir fait ça. S'il a fait ça, il est injuste. Injuste? Il n'est pas injuste. Tout le monde méritait l'enfer. Il méritait d'être tout garanti dans le lac de feu pour l'éternité. Spurgeon, quand il attendait cette objection-là, il répondait, « Moi, ce qui me confond beaucoup plus, c'est pourquoi Dieu a décidé d'en sauver. » Pas pourquoi Dieu a décidé de ne pas en sauver, c'est pourquoi Dieu a décidé, moi, c'est ça qui me confond. Pourquoi Dieu, dans cette masse de corruption-là, a décidé par amour de faire subir à son Fils ce qu'il a subi sur la croix, c'est incroyablement profond. Pourquoi il a décidé de donner ça à des hommes alors qu'il aurait pu, dans sa justice, prendre tout ça, mettre ça dans le baril, puis garder ça dans le lac de feu, puis il aurait été parfaitement dans sa justice, puis il aurait fait aucun geste pas correct. Donc, quand l'homme vient questionner, c'est pas juste, il ne m'a pas choisi, tu sais. Tu n'as pas choisi, tu n'as pas un mot à dire, parce que tu es coupable devant Dieu, mais tu n'as pas un mot à dire. Le Seigneur, il dit qu'il a fait ça pour manifester deux choses. Manifester sa gloire, manifester la gloire de son amour, de sa miséricorde, et manifester aussi sa justice. Alors, il y a des. Un jour, on va voir que toutes ces choses-là. Puis pour le moment, il y en a qui ont bien de la misère avec ça. Alors, il faut toujours que tu examines la doctrine du salut, de l'élection en lumière avec d'autres doctrines, si tu veux bien la situer. La première, c'est celle de la dépravité totale et de la culpabilité de l'homme. Quand tu regardes ça, tu dis, tout le monde est coupable, tout le monde est dépravé, tout le monde est corrompu. C'est vrai que c'est bien plus mind-boggling, comme ils disent en anglais. Pourquoi il a décidé d'en prendre plusieurs millions et de lui donner la vie éternelle alors qu'il méritait toute l'enfer? C'est ça, plus la question, la vraie question qu'on peut poser aux dieux. Pourquoi, dans ta bonté, tu as décidé de nous choisir? Là, comment là, tu ne viens pas questionner son choix? Tu viens juste dire, Seigneur, t'es tellement bon que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu étais si bon que ça envers nous autres. C'est tout. L'approche est complètement différente. Tu ne questionnes pas son choix pour le faire venir à la barre. Tu dis, mon jeu est tellement bon que j'arrive pas à comprendre sa bonté. C'est autre chose. Hein. L'approche est différente. Alors, l'autre doctrine qu'il faut regarder, c'est celle qu'on appelle la doctrine de l'alliance éternelle des trois personnes de la Trinité. Alors, le Père a choisi, le Fils pourvoit et l'Esprit Saint applique. Alors, le Père choisit, l'Esprit Saint, le Fils pourvoit et l'Esprit Saint applique. Et l'autre point à considérer, le huitième point, c'est le fait que l'élection est en vue du salut. Ça ne veut pas dire que dès ta naissance, tu étais sauvé. Il ne faut pas se faire de confusion. La doctrine de l'élection, c'était en vue de ton salut. Ce n'était pas que quand tu venais au monde, tu étais sauvé. Par contre, tu étais un élu, tu étais élu, que tu étais sauvé avant de recevoir la régénération par le Saint-Esprit. Alors, l'élection, c'est en vue de ton salut. OK, maintenant, on va aller voir toute une série de versets pour démontrer que Dieu a choisi. Le premier point qu'on va regarder, c'est que Dieu a un peuple choisi. Il a prédestiné au salut, donc à la vie éternelle. On va aller voir Deutéronome 10, versets 14 et 15. Deutéronome 10. C'est 14 et 15. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux et la terre et tout ce qui y est. Cependant, l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisi pour être leur postérité comme vous le voyez aujourd'hui. Alors on voit ici que l'Éternel avait, entre tous les peuples, choisi le peuple d'Israël, puis c'est lui-même qui dit ça. C'est l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer, et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisi. Donc, il avait choisi le peuple d'Israël en proportion avec l'ensemble des hommes qui existaient dans l'humanité à cette époque-là. C'était quand même une proportion de minorité. Je pense que dans le salut, dans l'élection, c'est peut-être aussi, d'ailleurs, il dit même, les élus sont peu nombreux. OK, le psaume 33, verset 12. 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qui s'est choisi pour héritage. Alors, on voit encore ici le mot que Dieu a choisi un peuple. Psaume 105, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis, nous serons rassasiés des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. Alors encore là, c'est dans le contexte que Dieu parle, heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis. Psaume 106, verset 5. C'est 107. On va prendre à partir du verset 4, parce que ça parle du salut. Heureux, c'est-à-dire Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance envers ton peuple, fais venir à moi ton salut, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Le bonheur de tes élus. OK, Agée, chapitre 2, verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te tiendrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Et l'Éternel a dit la même chose pour Paul, a dit la même chose pour Jérémie, a dit la même chose pour plusieurs. L'Éternel a choisi des personnes, même dit dès le sein de leur mère. Ils étaient déjà choisis par l'Éternel. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père. Et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. C'est un verset très fort. Matthieu 24, 14. Non, ça ne dure pas 24, c'est 22, 14, excusez-moi. 22, 14. Et ici, il est précis. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est sûr que quand on considère qu'au cours de toute l'histoire, s'il y a, disons qu'il y aurait plusieurs centaines de millions de personnes trouvées, c'est beaucoup, mais comparativement au nombre global d'hommes qu'il y a eu sur la Terre de tous les temps, c'est relativement peu, dans ce sens-là. Après ça, tu as Matthieu 24, versets 22, 24 et 31. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrigés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Verset 24, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Verset 31, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Alors, l'Éternel, ça se situe probablement dans le contexte de la grande tribulation où les élus de Dieu, ça va être le peuple d'Israël et d'autres des nations qui vont être converties durant cette période-là. Et l'Éternel, tous ceux qui avaient été dans le conseil de Dieu, élus en Christ, l'Éternel va les rassembler les 80, comme il dit. Il n'y a pas un élu qui était décidé par Dieu qui va. Moi, je me souviens d'avoir entendu une prédication, on en a une personne, je nommerai pas son nom. Il disait. Par l'aide de l'évangélisation. Il dit, on l'évangélise pas beaucoup. Il dit, si on évangélise plus, il dit, les gens passent devant nous autres, puis on ne leur parle pas de l'évangile. Il dit, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ils passent, puis ils s'en vont en faire. Il faisait l'homme responsable du destin éternel des personnes parce qu'on ne leur avait pas annoncé l'évangile. Wow, un instant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas parler de l'évangile. Mais il n'y a pas une personne qui va aller en enfer si ce n'était pas son destin. Il est pleinement responsable de son destin. Alors, c'est sûr qu'on a la responsabilité d'annoncer l'Évangile, c'est un commandement de Dieu, mais de là à dire qu'il y a peut-être des personnes qui auraient pu venir au salut et qui sont allées en enfer, moi je ne sais plus. Parce que là t'es, c'est plus ça, c'est plus la doctrine de la souveraineté, ça. Là, c'est la doctrine de la souveraineté de l'homme. Il n'y a pas un élu qui va aller en enfer. Il y a un moyen que l'Éternel va choisir pour le sauver, je ne le connais pas. Normalement, il choisit, que ce soit par prédication, ou normalement, il choisit que ça peut être par un livre, ou ça peut être par sa parole, ou ça peut être par toutes sortes d'autres moyens. Mais il n'y a pas un élu qui va penser qu'il va traverser dans l'éternité s'il n'a pas entendu parler de la parole de Dieu. Ça, c'est impossible. Parce que Dieu va permettre, par toutes sortes de circonstances possibles, inimaginables, tout pays du monde, les fonds de la jungle, parler des personnes qui vivaient dans le fond de la jungle comme des véritables sauvages. Et si l'Éternel avait un élu dans ce peuple-là, il va permettre qu'un missionnaire y aille. Comment ça sera, comment il passera 10 ans-là juste pour atteindre cette personne-là, l'Éternel va l'envoyer et il va se passer quelque chose. Il n'y a pas une personne qui était élue dans le conseil de Dieu. Hey, ils ont coûté bien trop cher à son fils Jésus-Christ pour qu'il ne ramasse pas. Puis Jésus-Christ sont tellement chers dans son cœur, sont écrits dans la paume de sa main, et les siens n'en perdront pas aucun. Ça, c'est sûr comme c'est une œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur choisit un homme précis d'homme, il est place en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ, quand on est en Jésus-Christ, Jésus-Christ fait le travail d'accomplir la loi à notre place. Et sur la croix, il subit l'équivalent de l'ensemble des punitions que ces gens-là auraient dû subir à leur place. C'est ça le merveilleux salut. Et après que tu comprends comment tout ça s'est articulé, ceux que le Père a choisis, ceux que le Fils a rachetés, ceux que le Saint-Esprit va régénérer, c'est les mêmes. Trois cercles concentriques qui rentrent l'un dans l'autre, c'est parfaitement vrai. Alors quand on prêche un salut accessible à tous, on est en train de dire que c'est pas Dieu qui a choisi. On est en train de dire que Jésus-Christ a payé pour toute l'humanité, mais que de l'autre côté, même s'il a payé pour toute l'humanité, il ne l'aura pas tout. On est en train de dire que tout le monde peut être régénéré par leur propre décision. Alors, quand on va arriver au point de la grâce irrésistible, on va voir que c'est l'Esprit de Dieu qui régénère l'homme, parce que s'il ne le régénérera pas, une personne morte spirituellement ne peut pas prendre de décision ou ne peut rien comprendre de ce qui est spirituel parce qu'il est mort spirituellement. Alors, on va voir ça un petit peu plus loin. On va regarder Matthieu 24. On va aller voir Luc 18, verset 7. Luc 18, 7. OK. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il y fasse sa vengeance? On voit encore ses élus, l'adjectif possessif, les élus à lui. Romains 8, verset 28 à 30. Verset 28 à 30 dans Romains 8. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et regardez la deuxième partie. De ceux qui sont appelés selon son dessein. L'appel vient de Dieu. Son dessein, ça veut dire sa décision, son conseil, son choix. Car ceux qu'il a connus d'avance, s'il t'a choisi, il connaissait, il t'aimait, il avait décidé de t'accorder le salut à toi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Alors, on voit l'idée ici qu'une personne simple ne peut pas, prétendre être un élu de Dieu et après ne pas avoir une vie de sanctification. Parce que ça dit, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. S'il nous a prédestinés qu'on devienne comme des images de son Fils, c'est sûr que l'idée de la sainteté est là. Hein? Afin que celui qui soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, les a aussi appelés. Si on, ça, ce verset-là, c'est en anglais, il l'appelle « the golden chain of salvation ». Alors, tu as les cinq liens qui partent de l'éternité, et on voit les liens. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. On a vu la semaine dernière qu'est-ce que c'était la justification. Déclarer juste sur la base de quelqu'un d'autre qui a accompli à ta place la justice que tu devais accomplir, et sur la base que la punition qui t'était due a été payée par un autre, et à ce moment-là, vu qu'il y a eu un transfert de tes péchés sur lui, et que lui a payé pour tes péchés, et que lui a pris la justice puis l'a complète à place, il y a eu un transfert, et sur cette base-là, tu peux dire à un de ses élus, tu es déclaré, je te déclare juste. Pas juste parce que tu es plus fait qu'un autre, tu as fait une meilleure vie qu'un autre, puis tu t'es sanctifié dans ta vie, puis tu as eu de la repentance. Pourquoi Dieu peut nous regarder et voir en nous comme s'il verrait l'image de Christ? Hey, moi, je me disais une affaire, si je regarde ma vie passée, si je regarde même ma vie présente, des fois, on pêche, et l'Éternel, quand on prend l'ensemble de la doctrine, l'Éternel nous dit qu'il a payé pour nos péchés passés, il a payé pour mes péchés d'aujourd'hui, et il a payé pour les péchés de tout mon avenir. Ça veut dire que l'ensemble des péchés de toute ma vie ont été payés très, très, très abondamment sur la nature de Christ qui a subi à ma place. Pourquoi le Père me voit comme saint? Quand tu dis saint catholique, je suis un saint, selon les Écritures, tout est un saint. Tout est un saint. Parce que les autres se sont fait rentrer dans la tête du catholicisme, le saint par progression, le saint qui s'use les genoux, le saint qui se fouette, le saint qui ne pêche de moins en moins, supposément. Et là, c'est comme une vie d'œuvre et d'œuvre et d'œuvre et d'œuvre. Et il y a certains saints, que, supposément, selon eux, qui ont eu une vie tellement juste, qui ont ce qu'ils appellent des œuvres surérogatoires. Des œuvres surérogatoires, ça veut dire qu'ils en ont plus que le Seigneur en demandait. Et le reste, ils mettent ça dans une grande banque, là, et cette grande banque-là, c'est accessible aux autres saints qui demandent. C'est ça la communion des saints. Alors, c'est fou à lier. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a jamais accompli une vie de perfection, une vie de sainteté. Le plus grand saint, le véritable saint de Dieu, que Dieu a sauvé, a justifié, qui a été déclaré juste, et qu'après ça, il a mené la vie du plus grand saint, là, qu'on pourrait lire la vie des véritables saints de Dieu, t'as tous des pécheurs après. Puis quand tu lis leurs œuvres, tu es surpris de voir jusqu'à quel point ceux qui sont le plus grands sont le plus humbles concernant leur propre nature, concernant leur péché. Alors, tu sais, c'est... Faut se plugger à un moment donné. Et par exemple, le verset 33, ici, il dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » Dieu est celui qui justifie. Comment que le démon sera, parce que le démon, c'est un accusateur, comment que le démon sera au ciel et se présentera un million de fois? Devant Dieu le Père, qui disent, hey, je te dis, ton enfant, là, ton petit morceau de mon frère, ben, je peux t'en dire des petites choses sur sa vie, là. T'es au courant. C'est un ci, puis c'est un ça, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis il a fait ci, puis il a fait ça, puis il a passé ci, puis il a passé ça. Puis... Mais Dieu m'a déclaré juste. Comment qu'il essaiera de dire à Dieu que je ne suis pas juste? Puis Satan ne peut pas s'activer parce qu'il dit, ces péchés que tu m'accuses là, je ne dis pas, Dieu ne dira pas que c'est pas vrai. Dieu va dire, oui, c'est vrai. Mon fils a payé pour toi. Il n'a rien dit. C'est un saint. Et j'ai été déclaré Dieu. Dieu lui-même, le souverain juge, a déclaré, cet homme est juste. Il me déclare juste. Donc même si Satan m'accuse à tour de bras, ça passe sur le dos, comme sur l'eau, sur le dos d'un canard, parce que Dieu sait que mes péchés, et c'est là qu'il y en a plusieurs, qu'au Moyen-Âge, les disputes théologiques, il y en a qui disaient, « Ouais, mais si tu te rends jusqu'au bout dans ton affaire, tu es en train de dire que tous tes péchés sont pardonnés, présent, passé, à venir, à ce moment-là, écoute, tes péchés sont pardonnés, vas-y, fais la belle vie, comment on dit, la belle vie de pécheur, vautre-toi dans ton péché, roule dedans, abrite-toi avec. » Qu'est-ce que ça dit? Dieu nous a destinés pour être conformes à l'image de son Fils. Est-ce que son Fils a mené une vie de même? Aucunement. Parfaite sainteté, puis nous a destinés à devenir de plus en plus semblables à lui. Quelqu'un qui prétend être sauvé, il sait que tous ses péchés sont pardonnés. Puis continuer à se vautrer dans le péché, à abuser de la grâce de Dieu, ça prouve juste une chose, c'est qu'il n'est pas sauvé. Alors, ce dont il nous accuse, c'est de la folie furieuse, tu sais. À cause, au contraire, moi je me dis, un jour, je suis sauvé, jamais j'ai tant souffert de péché. Parce que quand je pèche, je sais, puis ça me fait mal. En dedans de moi-même, en disant, ah non, pas qu'une fois, je veux pas, voir ce que tu veux, on le sait tout par expérience, on voit qu'on fait des choses qu'on... Quand je dis que Dieu déclare une personne, nous déclare saint, c'est Dieu qui déclare saint sur la base de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et c'est sûr qu'il ne nous déclare pas Dieu, ça c'est certain. C'est dans le plus, c'est l'évidence même. Romains 11, 28. « Il est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile. Il parle des Juifs ici. À cause de vous. Mais, à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alors, on parle encore ici que certains Juifs vont être aimés et vont obtenir le salut éventuellement à cause de l'élection. Colossiens 3:12. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 1 Thessaloniciens 5:9. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, on voit de la destinée. Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Tite 1:11. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. 1 Pierre 1:1-2. Et comme je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une autre fois, quand on fait une étude comme ça, un peu exhaustive, c'est loin d'être complet. Là. On pourrait, quand on va étudier cette doctrine-là en profondeur, dans les manuels qui étudient ça en profondeur, je vous dis une chose, il y a plus de versets que ça. Alors, c'est pas de penser là, que j'ai fait le tour de la question, là, puis que j'ai tout sorti ce qui traite de la souveraineté de Dieu ou qu'il a destiné, il a destiné des gens au salut. Donc, on a dit 1 Pierre 1:1-2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux élus, étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père. En anglais, c'est according to. Elected according to. C'est en accord avec ce qu'il a décidé. Élus selon la préscience de Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. Alors, ceux qui prétendent un salut, qu'après, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de suivi. Alors, pour obéir, le but est d'obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 2:8-9. Et ça, c'est fort là, dans les versets de destination, certaines personnes destinées en désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. C'est puissant. Verset 9, mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau. On parle des gens qui vont être dans la grande tribulation. Ils combattront contre l'agneau, pas nécessairement contre la grande tribulation, c'est dans le contexte, je pense que c'est après la grande tribulation. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Maintenant, on a vu le premier point que Dieu a choisi un peuple. on a vu une multitude de versets. On a regardé d'autres versets par rapport au deuxième point. Le deuxième point, c'est que salut avant la fondation du monde, Dieu a choisi certains individus particuliers en vue du salut, et que son choix n'est basé sur aucun mérite, acte ou foi prévu chez ceux-ci, c'est ceux qu'elle a choisi. Le troisième point, la foi et les œuvres sont le résultat et non la cause du choix de Dieu. C'est bien important. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des œuvres parce que tu es sauvé. Pas tout à fait la même perspective. On va regarder le premier point, c'est que Dieu a choisi Marc 13, 20. Si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, aucune chair n'eût échappé. Mais il a abrégé ses jours à cause des élus qu'il a choisis. Comment on peut dire le contraire de ça? J'ai la misère à saisir. 1 Thess 1:4. Sachant, frère bien-aimé de Dieu, votre élection. 2 Thess 2:13. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi. C'est-tu plus clair? Ça peut être plus clair que ça. Dès le commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Super fort comme verset. Maintenant, est-ce qu'on peut démontrer par les Écritures, ici on parle avant la fondation du monde, on va aller dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. De Timothée 1:9. Regardez, on commence à vite. « Dès donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. » Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Ça, c'est clair. Apocalypse 13, verset 8. C'est aussi des forts, quand tu parles du livre de... Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé l'adorèrent. Alors, on est en train de dire qu'il va venir une époque où les hommes vont adorer Satan, et ceux qui vont l'adorer, c'est tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si tu n'es pas écrit dans le livre de l'agneau comme un élu, tu vas adorer le démon. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, on le voit, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, il n'est plus, bien qu'elle soit. Maintenant, est-ce qu'on a dit tout à l'heure la deuxième partie qu'on voulait regarder, est-ce que c'est basé sur des œuvres, des mérites prévus, une foi prévue, ou des œuvres? Romains 9, verset 11 à 13. Car les enfants, là ici, Romains 9, là, c'est peut-être l'un des livres qui a fait couler le plus d'encre de toute la Bible. Il y a eu, c'est le terrain, qu'on pourrait dire, d'un très âpre combat. Parce que c'est un chapitre qui est fort sur la souveraineté de Dieu. Et on a tout fait pour essayer de le diluer. On a tout fait pour essayer de faire dire ce qu'il dit. On dit, c'est pour ça que ça veut dire, ça veut dire ça. On avait de la misère à accepter le mot à mot. Car les enfants n'étaient pas encore nés. On parle de Isaac et Ésaü. Jacob et Ésaü, excusez-moi. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Et afin que le décret d'élection de Dieu demeura ferme, non à cause des œuvres, on le voit, c'est pas à cause des œuvres qu'on est sauvé, mais à cause de celui qui appelle, il fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il n'avait pas encore rien fait. Haïr, ça c'est dans le mot plus de la sélection, d'avoir choisi un pour le salut que de ne pas avoir choisi l'autre. Romains 10, verset 20. Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point, et j'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. Alors, les Juifs avaient reçu la loi, avaient reçu la parole de Dieu, qui leur avait été confiée en dépôt. Et ici, Dieu dit qu'il a été trouvé par ceux qui ne cherchaient pas. Ceux qui ne cherchaient pas, c'était les païens. Ça nous va. On ne cherchait pas Dieu. Ah, lui, il nous cherchait. Ceux qui supposément cherchaient, les Juifs, qui n'étaient pas des élus, il dit ici, j'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. Alors, et les Juifs, c'est juste les OK, 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses pas du bon. Ça, c'est bon. C'est bon pour nous humilier. Parce que Dieu est en train de nous dire que ceux qu'il a choisi, c'est pas nécessairement les sages, du coup. Moi, dans mon cas, je vais me dire à l'expliquer pendant. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Pas personne ne va pouvoir arriver devant Dieu et dire, moi, là. Elle dit que j'ai fait une belle vie, puis ça a bénéficié dans ma vie, hein. Seigneur, je te comprends pourquoi tu m'as choisi. On est des pourris, s'il nous a choisis, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés. Sur quelle base? C'est de l'amour pur, c'est sa propre décision, c'est sa propre volonté, sa volonté souveraine. 2 Timothée 1, 9, on l'a vu tout à l'heure, on va laisser faire. Acte 13, 48. Acte 13, 48, ça, ça devient puissant aussi. Là aussi, il est tellement puissant que, en certaines versions, ils l'ont mal traduit pour pas que ça dise ce que ça dit. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Qu'est-ce qu'ils croient? Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. OK, acte 18, verset 27. Ici, je dois vous dire que la version française ne donne pas la même chose que la King James. Je vais vous dire comment la King James le traduit. He greatly helped, au passé, he greatly helped those who through grace had believed. Si tu le lis en français, ça dit, et comme il passait en Achaïe, les frères qui l'y avaient exhorté, qui dirent aux disciples de bien le recevoir, quand il fut arrivé, il servit beaucoup, par la grâce de Dieu, à ceux qui avaient cru. La phrase n'est pas structurée la même chose qu'en anglais. Parce qu'en anglais, c'est « He greatly helped » au passé. « Il a aidé grandement those, ceux-là, who, through grace, had believed. » Ils ont cru par la grâce, à travers la grâce. C'est bien ça, regarde la King James, c'est bien ça. 18-27. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. Alors, ils ont believed through grace. Alors, c'est important de voir que on croit par la grâce. Philippiens 1:29. Alors ici, acte 18-27, là, c'est plus dans la version King James anglaise qu'on voit cette nuance-là. Philippiens 1:27. Philippiens 1:29. Parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Alors on voit que croire, il nous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui. Le fait de croire, c'est une grâce. On va voir la nuance. Hein. La nuance est super importante. Alors, il nous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais ce qui est important après, c'est aussi de souffrir pour lui. Quand on croit, quand on souffre pour lui, c'est une grâce qui nous est accordée. Philippiens 2, versets 12 et 13. Là, on voit ici que c'est vraiment la raison pour laquelle il nous a choisis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais encore plus maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travailler à votre salut, ça veut pas dire ici que faut que tu travailles pour obtenir ton salut. Là. Ça veut tout simplement dire de faire de ta vie, l'objectif de ta vie, la sanctification, avec crainte et tremblement, d'avoir la crainte de Dieu et de chercher à accomplir sa volonté. Alors, il ne faut pas prendre ce verset-là hors de son contexte et lui faire dire qu'on obtient le salut par le travail. Et le verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. » Lorsqu'on fait bien en Jésus-Christ, c'est encore la grâce, c'est Dieu qui nous l'accorde et qui nous donne le vouloir et le faire. Alors, la volonté de faire le bien et l'action de faire le bien, c'est lui qui l'a choisi selon son bon plaisir. Tess 1, versets 4 et 5. Sachant, bien, frère bien-aimé, votre élection, car notre évangile n'a pas consisté pour vous en parole seulement, mais il est accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité selon que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. 2 Thess 2, verset 13 et 14. On l'a vu tout à l'heure, 13, on l'avait vu. Donc on va laisser faire, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Jacques 2, 5, parce qu'on a vu certains qui se répètent. Là. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? Encore là, c'est le mot choisi. Les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Maintenant, pour regarder si les œuvres, c'est le résultat ou si c'est la condition pour obtenir le salut, regardons Éphésiens 1:11. Car c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Éphésiens 2:10. Cela, c'est peut-être 2:9 et 10, dans le fond. Ce n'est point par les œuvres, on va en parler de salut, cela, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. Encore, il y a encore l'idée, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu as 2 Pierre 1. Pierre 1, verset 51. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laissera point ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses se trouvent, ne se trouve point est aveugle, sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et ainsi l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ce que c'est en train de dire, c'est que plus tu vas marcher dans la sanctification, dans la pureté de vie, dans la proximité du Seigneur, dans la prière, dans tous les moyens de grâce qu'il t'a confiés, plus tu vas être sûr de ton salut. Il y a comme une relation directe, là. Plus tu vas vivre dans la sainteté, dans l'expression de la foi véritable, plus, parce que ça le dit, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire la rendre ferme. À un moment donné, t'es sauvé. Et des fois, à cause de ta faiblesse dans la vie, il peut arriver que tu dis, coudon, ça peut arriver que je ne sois pas sauvé, moi. Mm. Tu sais? Mais il dit que la solution à avoir de plus en plus d'assurance de ton salut, c'est de pratiquer toutes ces choses-là. Donc, il y a un lien direct entre la sanctification et la certitude de ton salut. Et l'élection comme telle est en vue du salut. Ceux qui ont choisi, ceux choisis ne sont pas sauvés avant d'être régénérés par le Saint-Esprit. J'ai toute une série de versets, mais on va sûr d'en avoir au moins un ou deux. 2 Timothée 2:10. C'est Paul qui parle, il dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Ce seul verset-là suffirait. Dans le fond, c'est de de reconnaître que l'élection, ça ne veut pas dire que dès que tu es au monde, tu es un sauvé. Tu n'es pas sauvé avant ta régénération. Alors, c'est l'idée à retenir là-dedans. L'élection est basée, un autre point qu'on va regarder, c'est que l'élection, c'est basé sur le choix souverain de Dieu. Romains 9, ça c'est, on va aller voir ça, c'est fort. Romains 9, 10 à 20. OK, donc on continue, Romains 9, versets 10 à 24, et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca quand elle conçut une fois deux enfants d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeura ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Alors, on voit que l'objection de dire, donc, y aurait-il l'injustice en Dieu? Pourquoi il ne choisit un, puis pas choisi l'autre? Nullement. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Alors, on voit vraiment, c'est de la pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça, c'est le verset-là. Là. Le nombre de livres qui ont été écrits juste sur ces versets-là pour s'ostiner, c'est incroyable. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or, tu me diras, si on voit que, quand on étudie Romains, on voit que ça, c'est juste, c'est des objections, c'est comme, il y a une façon de parler, il y a une objection, et il prévoit l'objection et il répond à l'objection. Alors, il dit, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? En voulant dire, si c'est tout Dieu qui a décidé d'avance qui était prêt à sauver, qui n'était pas prêt à sauver, pourquoi Dieu se plaindrait puisque nous, on fait simplement que accomplir ses décisions dans le déroulement du temps et des circonstances. Je ne sais pas si vous voyez le style d'argument qu'il y avait. Pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? On m'a dit, s'il y a d'autres décidés d'avance, qu'est-ce que je peux faire, moi, tu sais, pour aller à l'encontre de sa volonté? Et là, c'est là que Paul répond avec sa fameuse phrase. Et là, il dit, mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu voulait montrer sa volonté, sa colère, voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition? Et là, quand on étudie dans le grec, le temps des verbes est d'une importance primordiale pour la compréhension du texte. Et je peux vous dire que quand vous allez dans les livres de théologie qu'on lit ces versets-là, là, ça s'ostile, ces temps de verbes, ça s'ostile. C'est parce que c'est tellement puissant comme phrase, hein, que ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont tout faire pour l'évacuer, pour le faire sortir, pour le traduire incorrectement. C'est vraiment là, fort, hein. Parce que préparer, il est au passé. Afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire envers nous, qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon qu'il a, etc. 24, on est rendu là. On est rendu à 24. Romains 11, versets 4 à 6. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de sa grâce. Autrement dit, t'es en train de dire qu'il va y avoir des Juifs qui vont être sauvés, même après que Jésus, après sa venue sur la terre, que les Juifs l'ont rejeté, il va y avoir des Juifs de sauvés. Aujourd'hui, il y a des Juifs qu'on appelle les Juifs messianiques, qui sont sauvés. Et ça dit ici que c'est selon l'élection de sa grâce. Dieu a décidé qu'il y aurait un reste de Juifs, même s'il a rejeté comme tel l'ensemble des Juifs, il a dit qu'il y aurait un petit reste qu'il leur accorderait. Alors il leur dit, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne serait pas une grâce, ne serait plus une grâce, au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement les œuvres ne seraient plus des œuvres. » Et on pourrait avoir beaucoup d'autres versets aussi sur le fait que c'est le choix souverain de Dieu. Maintenant, l'autre point que j'aimerais regarder, c'est l'élection fait partie de la doctrine de la souveraineté absolue de Dieu. Et ça, vu qu'on a passé une leçon complète strictement sur ce point-là, on a vu que Dieu avait décrété l'ensemble des choses qui devaient s'écouler dans le temps, à tous les niveaux. Et que la doctrine de la providence, simplement, la providence, c'est dire que Dieu voit d'avance ce qui va se passer. Pourquoi il voit d'avance? Bien simple, parce qu'il a décidé. Alors, la providence, des fois on dit, on se fie à la providence. T'sais. La providence, c'est simplement le fait que Dieu sait toute chose qui va arriver d'avance. Il sait l'heure exacte que vous allez partir. Il sait l'heure exacte que vous allez arriver à l'université. Il sait ce que vous allez dire en allant. Tout ça, là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu sait tout ça, que ça c'est le déroulement, ça se déroule. La providence, c'est simplement chaque jour qui se déroule ce que Dieu avait décidé d'avance. À tous les niveaux, à tous les domaines, c'est immensément grand quand on parle de providence. C'est au niveau atomique, au niveau biologique, au niveau des insectes, au niveau des planètes. C'est immense, les anges, toutes les créatures, y compris les démons. Tout ça, là, Dieu pourra dire quel démon pense à quoi pour agir dans telle circonstance contre qui, puis qu'est-ce qu'il va faire demain, puis après-demain, puis tous les anges, et tous les hommes, et tous les gouvernements. Ces doctrines-là, là, quand tu te mets ça en profondeur, c'est mind-boggling. C'est comment une personne peut avoir une intelligence aussi. Quand on parle de l'intelligence de Dieu, on ne parle plus de l'intelligence humaine, non. Parce que quelque chose d'infini. Ça prend de l'intelligence infinie, quelqu'un qui a du moindrement étudié à l'université, vous êtes des universitaires, quelqu'un qui a étudié un petit peu au niveau biologique, quelqu'un qui a étudié un petit peu au niveau subatomique, et qu'on voit la masse de connaissances qui ont été ramassées là-dessus, et on ne connaît rien et on ne comprend rien encore. Puis il y a des millions de vols qui ont étudié ces choses-là qu'on ne comprend encore absolument rien par rapport à la somme de connaissances possibles à acquérir encore. La création de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. OK, je pense que comme tel, on peut aller voir okay, les décrets de la Providence, on les avait tous déjà regardés. On va plutôt faire regarder la conclusion de tout ça. Dans le fond, qu'est-ce que ça nous apprend ce soir, ces choses-là? L'élection inconditionnelle, une des premières choses que ça nous apporte, c'est que ça met le focus à la bonne place. Ça donne la gloire à celui qui la mérite. Ça met Dieu sur le trône et l'homme courbé, humilié à ses pieds, et c'est lui qui a le sceptre d'accorder le salut. Il ne devait pas l'accorder. Alors, ça nous donne, ça rend toute la gloire à Dieu. Alors, c'est-tu important d'étudier et de connaître la doctrine de l'élection conditionnelle correctement? Oui, parce que un des premiers objectifs de la vie d'un chrétien, ce devrait d'être de rendre gloire à Dieu. Et c'est un bon moyen que de respecter sa personne, ses décisions, ses choix, et respecter de croire en sa parole, c'est de vraiment de lui rendre gloire. C'est de ne pas mettre l'homme sur le trône puis Dieu en train de quêter à la porte. Parce que souvent, on présente dans le salut aujourd'hui des affaires comme ça, que Dieu est à ta porte, puis il est pieds nus dans la neige, puis il est en train de cogner à ta porte, te faire rentrer, puis c'est toi le grand maître qui a la petite poignée par en dedans, dans le cœur, puis c'est lui qui trouve, c'est toi qui décides d'ouvrir la petite poignée par en dedans, pour le laisser rentrer. Lui, le grand seigneur du roi de l'univers, qui contrôle toutes ces choses-là, il est là, puis c'est Dieu qui quête à ta porte. C'est complètement dément, cette doctrine-là. C'est vraiment de mettre l'homme sur le trône et de mettre Dieu comme un quêteux, de le présenter comme un quêteux. Et c'est non seulement c'est faux, mais c'est blasphème à toi. Parce que tu fais de l'homme, tu le rends tellement grand, tellement puissant, alors qu'il n'en est rien, il est un pourri, il est à la merci de Dieu, il est à un fil de tomber dans l'éternité, dans l'enfer. Et ça dépend juste de la décision de Dieu s'il ne tombe pas dedans. Alors, Dieu ne t'a pas en train de cogner. Quand il veut sauver quelqu'un, il ne procède pas comme ça. Alors, Dieu est puissant. Amen. La deuxième chose que cette chose-là apporte, l'étude correcte de l'élection inconditionnelle de Dieu, c'est que ça stimule ta foi. Ça habitue ta raison à accepter les choses qui ne sont pas nécessairement évidentes. Pourquoi ça crée tant de problèmes à tant de personnes, la doctrine de la souveraineté de Dieu, c'est que la raison a la difficulté à se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la véritable raison de tout ça. Ou l'ignorance. Si une personne devient chrétien, puis le livre que Dieu t'a donné pour le connaître, connaître ses œuvres, connaître l'œuvre de son Fils, connaître le Saint-Esprit, connaître le péché, connaître l'homme, les anges, tout ce que tu voudras, tu ne lis jamais, tu ne l'étudies jamais. Ça peut arriver que tu sois un ignorant, que tu ne veuilles pas faire du tort à Dieu ou de ne pas lui rendre gloire, mais c'est simplement par ignorance. Je dirais que c'est moins pire. Mais quand quelqu'un a atteint des niveaux, là, je ne sais pas, de baccalauréat théologie, qui a eu accès à une multitude d'outils, il a eu accès aux livres de façon quotidienne dans sa maison, et qu'il n'a pas approfondi, qu'il ne s'est pas soumis à ce que Dieu enseigne, c'est pas très très glorieux pour lui, le bonhomme. Hein? Véritablement, il est chrétien. La troisième chose, c'est que ça ouvre la voie à d'autres vérités. Quand tu commences à être capable d'accepter, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à croire dans la Bible. Moi, personnellement, l'enfer, j'ai de la misère avec ça. Pas que je le crois pas, mais j'ai de la misère en ce sens que moi, je pense surtout aux personnes que j'aime quand je pense à ça. Je pense à ma mère, par exemple. Ma mère, je l'aimais beaucoup. Et quand j'y pense encore, aujourd'hui, je suis croche. Je pensais que ma mère, ben, je... Parce que, à ma perception, à moi, c'était pas une grande pécheresse qui méritait l'enfer. Mais la chose qu'on va voir quand on va être rendu dans l'éternité, ça j'en suis persuadé, c'est qu'on va voir la gravité du péché, ce qu'on ne voit pas nécessairement. Pourquoi, moi, selon moi, ma mère ne mériterait pas l'enfer? C'est parce que je ne vois pas la gravité du péché. Puis une autre chose aussi, probablement, qu'on ne voit pas, c'est la sainteté de Dieu. Quand on va comprendre jusqu'à quel point Dieu est saint, quand les anges, les archanges sont proches de lui, s'approchent de lui, se cachent les pieds, se cachent les yeux, et sont tellement impressionnés par sa gloire qu'ils crient « Saint, Saint, Saint ». Quand on va voir ça, qu'on va voir l'horreur du péché, on va très bien accepter un jour que Dieu a pu plonger des pécheurs qui, à notre perception, à nous, ne méritaient pas ça. Ils vont être plongés là. Je le crois sur la parole, sur la base de du témoignage qu'il dit dans sa parole. On dit qu'il est tellement saint qu'il n'est pas capable de voir le péché. Nous, on est non seulement capable de le voir, mais on a le dedans, on n'a pas de problème. Alors, c'est ça qui est le problème. Alors, et non seulement il y a ça, il y a la doctrine de la Trinité, il y a la doctrine de la souveraineté, il y a beaucoup de doctrines qui sont difficiles à comprendre dans la Bible, et que si tu essaies de comprendre ça avec ta raison, t'essaieras de lire des gros traités de la Trinité. Tu vas rire. Ils cherchent toujours à expliquer les choses inexplicables. Des fois, les théologiens ont ce travers-là d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Il y a des choses qu'il faut que tu acceptes simplement sur la base que Dieu le dit. Dieu, comme les Anglais disent, God said it, it settles it. C'est pas compliqué, c'est réglé. Dieu l'a dit, c'est réglé. Alors, ça te prépare à accepter les vérités plus profondes. Quand on embarque la doctrine de la souveraineté, les doctrines de la grâce, les doctrines de la providence, du décret de Dieu, on est dans le strict de l'Évangile. On est dans le strict de la Bible. C'est plus de la nourriture, c'est plus du tillet, là. C'est des choses qui sont, pour les chrétiens émeux, commencent à avoir une certaine maturité pour être capable de comprendre ces choses-là et les accepter. Aussi, ce que ça fait, c'est que ça conduit à l'enseignement et à la prédication de ce qu'on appelle tout le conseil de Dieu. Tu ne prends pas la Bible, puis les passages qui sont difficiles ou les passages qui irritent l'homme, bon, tu sautes par-dessus, surtout ceux qui ne prêchent pas d'une manière systématique, c'est facile de faire ça. Tu organises toujours pour choisir des versets qui ne dérangent pas, des versets qui irritent pas, des versets qui ne froissent pas. Alors tu flottes dans le facile, puis le monde, ils ne sont jamais choqués. Va-t'en dans une série, dans une église traditionnelle, puis amène une série 25 messages, 25 dimanches de fil sur le péché. Ouais, ça va brasser la canale. Si le prédicateur est même moins remède solide, il n'a pas faire. Ça va brasser la cage de plusieurs dans l'assemblée qui mènent des vidoubles, qui mènent des affaires, qui croient que Dieu va accepter ça. Ça va les ébranler, ils vont être croche. Si quelqu'un vient pas croche, parce qu'il n'est pas chrétien. Si quelqu'un reste là, ça ne va rien. C'est une chose, parce qu'il n'est pas chrétien. Mais s'il est vraiment chrétien, puis il vit dans le péché, à quelque part, quand le prédicateur va y amener des fois, ça va y rentrer dans le cœur même une flèche. Pas à cause de la parole du prédicateur, la parole de Dieu dit qu'il va y rentrer dans le cœur. Ça va y faire des faits. Ça va le brasser, ça va le virer à l'envers. Puis quel d'entre nous que j'ai jamais entendu une prédication qui vient de chercher, moi j'ai entendu ça. Mm-hmm. Alors, c'est un peu plus amené, il y en a un qui dit quelque chose. On jurait que c'est une flèche. Tu te sens visé, tu sens que le Seigneur lui a dit à toi. Puis là, tu dis, waouh, on sait vraiment là-dessus. Alors, c'est ça. Ça t'habitue à ne pas sauter par-dessus aucune chose difficile de la Bible. Un autre point, c'est que c'est une formidable barrière contre le modernisme. Tous les églises calvinistes fortes, séparatistes, depuis des siècles, qui ont maintenu leur position, ne se sont jamais laissés emportés dans les mouvements d'écuménisme et d'apostasie. C'est une barrière formidable contre le modernisme, l'écuménisme et l'apostasie. Formidable. Elle donne aussi une fondation d'une grande solidité à la doctrine de la persévérance des saints. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'églises néo-évangéliques, et plus particulièrement, je dirais, dans l'église de tendance pentecôtiste, on enseigne que le salut se perd. Mais je regrette, mon ami, la personne qui enseigne que le salut se perd, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi le salut. Si Dieu a accompli, Jésus a accompli à ma place la loi, il a accompli la justice selon Dieu à ma place, et qu'il a subi ma punition à ma place, et que tous mes péchés, passés, présents et à venir, sont pardonnés selon la très forte témoignage des Saintes Écritures, on vient me dire après que moi je suis perdu à cause de la manière dont je marche. Les versets que tu utilises, c'est parce que tu sors hors de leur contexte et que tu ne tiens pas compte de l'ensemble de tous les autres versets qui te prêchent exactement le contraire. La parole de Dieu, là, c'est pas un livre de comique. Il faut que tu regardes ce que Dieu dit. Mais pas juste que ce qu'il dit à un verset. Et à 17, il dit ça. Il dit ça là. Mais tu regardes ce qu'il disait ailleurs. Parce que la parole de Dieu, ça s'harmonise. À partir du moment que tu n'harmonises plus la parole, tu as un problème. Un autre affaire que ça dit, que ça nous fait, c'est que ça exclut notre orgueil, ça nous rend humble. C'est drôle parce que quand tu vas lire des œuvres qui vont être contre le calvinisme, ils vont dire que ça fait le contraire. Ils vont dire que ça nous rend orgueilleux. Mais moi, je regrette, mais ça ne me rend pas orgueilleux de me faire dire que je suis vil, que je suis faible, puis que je suis les choses folles du monde. Puis c'est Dieu qui est venu me choisir, c'est lui qui m'a accordé sa grâce dans ma misère, il est venu me chercher dans ma misère. et qu'après, même après que je suis sauvé, je continue à être pécheur, et que malgré ça, il continue à m'aimer, c'est bien plus quelque chose pour m'humilier, puis se dire, Seigneur, mon Dieu, t'es bon, mon Dieu, t'es grand, mon Dieu, t'es plein d'amour pour permettre ça, pour que je puisse continuer à aller, à t'appartenir, puis à aller vivre en ta présence pour l'éternité. Au contraire, ça n'enorgueillit pas, ça humilie. Et le livre qu'on étudie actuellement, le soir, le mercredi soir, là, vous allez voir une chose, ça c'est une tactique du malin et des ennemis de Dieu. Ils viennent toujours t'accuser d'exactement le contraire de ce que ça produit en réalité. Ils vont t'accuser que ça t'enorgueillit, dans la vraie vérité, c'est que ça t'affaiblit. Et etc. Donc alors, souvent, ils vont t'accuser de choses qui c'est pas vrai. Ils vont accuser que t'es vengé du poids, ça, dans tas de choses comme ça. Aussi, ça l'encourage à l'utilisation des moyens, parce que Dieu dit, on a vu, que Dieu non seulement a choisi, mais il a aussi déterminé les moyens. Alors, Dieu peut se servir de nous comme un moyen pour amener quelqu'un à l'Évangile. Alors, c'est pas...